Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans les de ce mardi 21 août 2018. Nous sommes au grand complet dans le studio ici. J'ai avec moi Jean-Charles Algan.
Bonjour, bonjour. Bonjour.
Comment allez-vous?
Ah, super bien, très bien.
Très bien, comme très d'habitude, beau. Excellent. Oui. Et également Yves-Olivier vient de nous rejoindre. Bonjour à vous.
Bon matin.
Bon matin. Comment allez-vous?
Ça va bien et vous?
Très merci. Bien, très bien, merci. Je suis Louis de Bernis et puis eh bien, nous avons plein de sujets pour vous comme d'habitude. Commençons le tour de table. Jean-Charles, qu'avez-vous?
Alors, j'ai les touristes qui menacent l'île de Pâques.
Ah oui.
Donc on en parlera parce que là, il y a des petites limitations de visite de territoire. Mmh. Ensuite, si nous avons le temps, j'aime beaucoup parler de vin. L'histoire du vin à 7$, c'est un vin moldave qui est vendu à la SAQ.
Moldave.
Oui. Alors, je ferai un petit récapitulatif pour ceux qui ne savent pas où se trouve la Moldavie.
Ce sera nécessaire, je pense. Merci.
Et puis, si j'ai le temps, je parlerai du zoo de Saint-Félicien qui fait peau neuve.
Très bien, excellent. De votre côté, Yves-Olivier, quels sont les sujets du matin du jour?
Alors, dans mon cas, il y a un texte que je n'avais pas eu le temps de lire la semaine passée. C'est « Vivre sur un bateau pour éviter des loyers faramineux à Toronto ».
Intéressant. Mm-hmm.
Puis ensuite, « Vivre sans utérus ». Et on parlera également de l'industrie du plastique qui se met au vert. Donc, à voir comment ils font ça. Puis, l'avènement...
Ce serait ira peut-être.
Oui. Puis également l'avènement d'un créateur de jeux vidéo et de son industrie.
Peut-être la semaine prochaine.
Ben, c'est ça. Voilà pour le mois.
On verra, on trouvera le temps, on trouve toujours le temps. De mon côté, eh bien, des insolites. Comme d'habitude, nous parlerons par exemple du plus vieux fromage du monde.
Ah, oui.
Il ne vient pas de Moldavie, mais peut-être se marie-t-il bien avec votre vin.
Ah, peut-être.
Nous parlerons également eh bien, d'un aquarium géant pour les poissons rouges abandonnés. Ben oui, il faut s'en occuper aussi. C'est un phénomène... existe en France, c'est un aquarium qui existe en France, puis pourquoi pas également des corbeaux qui nettoient un parc d'attractions. Tout ça, c'est dans quelques instants, dans les voies de service.
Les touristes menacent l'île de Pâques de l'agence France Presse à Santiago de Chili. Pour visiter la célèbre île de Pâques et ses monumentales statues Moai, il faudra désormais montrer patte blanche. Le Chili vient de limiter l'accès à ce territoire, menacé par la surfréquentation touristique. Cette île est magique, tout le monde veut la visiter, mais c'est aussi une île délicate que nous devons protéger. La nouvelle loi a pour objectif d'y réguler le tourisme, a déclaré le président chilien Sebastián Piñera à la chaîne d'information 24 horas. À propos de ce bout de terre situé dans le sud-est de l'océan Pacifique à 3500 km du Chili. La croissance démographique de l'île, d'une superficie de 168 km², conjugué à l'essor de l'activité touristique et immobilière, principalement des hôtels, met en danger sa faune et sa flore. Chaque année, l'île de Pâques accueille 116 000 touristes. Sa population, qui a doublé en quelques décennies, est de 7 750 résidents permanents, dont 40% de natifs. La loi, entrée en vigueur au début du mois d'août, fait passer la durée du séjour de 90 à 30 jours maximum pour les touristes. Ceux qui souhaiteront se rendre sur ces territoires chiliens devront en outre répondre à certains critères. Remplir un formulaire, avoir une réservation dans un hôtel ou avoir été invité par un insulaire et présenter ses billets aller et retour. Cette mesure s'applique aux étrangers mais aussi aux Chiliens désirant visiter l'île. Le texte impose également des conditions pour s'y installer durablement. Il faudra être le père, la mère, le conjoint ou l'enfant d'un membre de la communauté autochtone des Rapa Nui. Par ailleurs, seuls les fonctionnaires, les salariés d'organisations travaillant pour le compte de l'État et ceux qui développent une activité économique indépendante pourront y résider avec leur famille. Les insulaires se plaignent de la présence massive de ceux du Conti, le continent je suppose. Surnom donné aux personnes originaires du continent. À l'origine, selon eux, de la surexploitation, de la mauvaise utilisation des ressources de l'île, de l'excès de consommation d'eau et d'énergie électrique. Cela contribue aussi à diluer la culture locale d'origine polynésienne dont ont issu les fameuses statues géantes de pierre appelées Moais, jugent les natifs. Les étrangers sont en train de prendre, pardon, le contrôle de l'île, résume le maire de ce territoire, Pedro Pablo Edmunds Paoa. La pression touristique a eu un impact sur les services basiques de l'île, mais surtout sur la gestion de déchets, récemment déclaré en substance à l'AFP, Anna Maria Gutiérrez, conseillère en matière d'environnement de la municipalité. S'il y a 10 ans, l'île de Pâques produisait 1,4 tonnes de déchets par an, ce chiffre atteint aujourd'hui 2,5 tonnes, dont une faible part est recyclée. D'ici 2025, on calcule que l'île produira 32 tonnes de carton, 18 tonnes de plastique, 12 tonnes de boîtes de conserve et 9 tonnes de verre. Ce petit territoire en forme de triangle, dont les côtés mesurent 16, 17 et 24 km, est situé en plein dans les courants marins qui emportent à la fois les déchets du continent et ceux dérivés de l'île de plastique du Pacifique Sud. L'île de Pâques tient son nom de l'expédition hollandaise menée par le navigateur Jacob Roggeveen le jour de Pâques, le 6 avril 1722. Le Chili annexa l'île en 1888. Néanmoins, les habitants l'ont toujours surnommée Rapa Nui, signifiant dans la langue autochtone, le nombril du monde.
Et parlons de fromage à présent avec une civilisation non moins historique puisque je vous emmène en Égypte où il se pourrait qu'on ait découvert le plus vieux fromage du monde. Pendant des millénaires, sous les sables du désert égyptien, une substance blanchâtre solidifiée reposait dans un pot cassé. Les scientifiques croient maintenant que c'est probablement le plus ancien résidu archéologique solide de fromage jamais trouvé. Les archéologues ont fait cette découverte en nettoyant les sables autour d'une tombe de la 19e dynastie dans la vaste nécropole de Saqqara, de l'ancienne ville de Memphis. La tombe de Ptah, la mère de l'ancienne ville de Memphis, a été découverte en 1885 mais a été avalée par le désert jusqu'à sa redécouverte en 2010. La masse solidifiée blanchâtre a été découverte lors des travaux d'excavation entre 2013 et 2014 avec un tissu de toile qui aurait pu être utilisé pour recouvrir le pot, peut-être pour préserver son contenu, selon une étude publiée cette semaine dans Analytical Chemistry. Le fromage, âgé de 3200 ans, était composé d'un mélange de lait de vache et de mouton ou de chèvre. En raison des pluies et des crues du Nil, l'échantillon a subi des milliers de cycles d'hydratation et de déshydratation. L'environnement alcalin très prononcé a transformé toutes les graisses et il n'a pas été possible d'utiliser des techniques conventionnelles, a expliqué l'auteur principal de l'étude. La fabrication de fromage a été représentée sur des peintures murales d'anciennes tombes égyptiennes à partir de 2000 avant Jésus-Christ. En outre, une étude publiée en 2012 dans la revue scientifique Nature retrace les premières preuves de l'industrie jusqu'au 6e millénaire avant Jésus-Christ. En Europe du Nord, il y a quelques 7000 ans. Les résidus de fromage plus anciens découverts étaient généralement attribués au lait fermenté naturel comme le yaourt ou le kéfir, mais la découverte de Saqqara n'a révélé aucune trace de protéines provenant de la fermentation du lait naturel. Pour cette raison, nous pouvons dire que c'est le plus vieux fromage solide jamais trouvé à ce jour. Il y a peu d'informations sur le processus de fabrication de fromage en particulier, mais il était nécessaire de développer une technologie et des procédures spécifiques qui n'existaient pas auparavant. C'est un moment très important dans l'histoire des produits laitiers. Parmi les résultats significatifs de l'étude, on peut citer les signes de bactéries potentiellement responsables d'une maladie mortelle, la brucellose, due à la consommation de produits laitiers non pasteurisés. Selon l'étude, si elle est confirmée, ce sera la première preuve biomoléculaire directe de l'existence de la maladie au cours de la période pharaonique. La brucellose dans l'Égypte ancienne a été identifiée par les effets ostéo-articulaires sur les os des momies, a expliqué le directeur de l'étude. La conclusion peut suggérer que les Égyptiens mangeaient soit du fromage, soit du lait contaminé.
Vivre sur un bateau pour fuir les loyers élevés à Toronto. C'est un texte de Stéphanie Laperrière. Le coût élevé de l'immobilier dans la ville reine a incité des Torontois à jeter l'ancre dans le lac Ontario. Si vivre sur un bateau présente des avantages, ce mode de vie inusité ne convient pas à tout le monde. Arrivée à la retraite, l'enseignante Donna Creighton n'avait plus les moyens de vivre dans la ville reine. Par hasard, elle est tombée sur l'annonce de la vente d'un bateau à la Marina Bluffers Park, à l'ouest de la ville. Aussitôt que je suis arrivée ici, je suis tombée en amour avec l'endroit, poursuit-elle. Elle a donc choisi d'y élire domicile, même si elle n'avait pas d'expérience dans la navigation. Elle y dépensait aujourd'hui environ 900 $ par mois pour vivre sur un bateau. Le coût de la vie à Toronto fait aussi partie des facteurs qui ont incité la famille Nuttall Sloan à jeter l'ancre dans la marina des îles de Toronto. Le bateau de Cheryl Nuttall compte deux chambres, une salle de bain, une cuisine et quelques espaces communs. Surtout, pour ces amateurs de voile, il n'y avait pas meilleur endroit où élever leur fils. Ce que nous pouvons offrir à notre fils en vivant sur un bateau a beaucoup plus de valeur à mes yeux que les expériences qu'il aurait eues en vivant dans un condo, dit Cheryl Nuttall. Vivre sur un bateau coûte à la famille Nuttall Sloan environ 2000 $ par mois, incluant les versements hypothécaires, la location du quai, l'électricité et l'assurance. En comparaison, le loyer moyen d'un appartement à deux chambres au centre-ville est de 2 930 $ par mois, selon les plus récentes données de la Chambre immobilière de Toronto. Malgré une vie moins chère, paisible et près du centre-ville, ce mode de vie ne gagne pas en popularité. Seulement 150 familles ont élu domicile dans les marinas du Grand Toronto, et ce chiffre est resté stable au fil des ans, même si les prix de l'immobilier ont augmenté. Il y a souvent des listes d'attente pour un quai, mais nous réussissons toujours à avoir une place dans une marina, dit Gordon Sloan. Certains achètent un bateau et essaient d'y vivre, mais réalisent rapidement que ce n'est pas pour eux. Il dit passer des journées à faire des réparations et ajoute que les insectes et l'eau se glissent parfois à l'intérieur du bateau. Ce mode de vie met aussi à l'épreuve l'ingéniosité des résidents des marinas, en particulier l'hiver. Nous installons des agitateurs pour éviter que l'eau ne gèle autour du bateau, ce qui pourrait causer des dommages importants, explique Donna Creighton. Elle ajoute que les bateaux sont isolés à l'aide des toiles de plastique et chauffés avec des radiateurs électriques. Il y a un autre facteur à prendre en compte. La valeur du bateau tend à se déprécier au fil des ans, contrairement à un condo, selon Tom Story, courtier immobilier pour Royal LePage. La ville de Toronto n'exige pas d'impôts fonciers pour les résidents des marinas et n'a pas l'intention de le faire, selon sa porte-parole, Tammy Robinson. Elle précise que les bateaux ne sont pas considérés comme des immeubles par la ville et ne sont donc pas assujettis à l'impôt foncier. Mais la décision de vivre sur un bateau ne saurait se limiter à l'argent. Pour ceux qui ont fait ce choix, c'est avant tout une question de passion. Vivre ailleurs est inimaginable pour le jeune matelot Strummer Nuttall Sloan qui habite sur ce voilier amarré à la marina des îles de Toronto depuis qu'il a 4 ans. Alors, je finirai en disant, c'est vraiment amusant, j'aime ma chambre, l'air conditionné, la télévision, tout ce qu'il faut pour vivre dans une maison. C'est ce que nous dit Strummer Nuttall Sloan, jeune matelot de 9 ans.
Souvenir me meurt un temps sur un... Sur les ondes de Canal M, on entendait Charlotte Gainsbourg, Kate.
C'était la voix de Maurice Bolduc. L'histoire du vin à 7$, Karine Duplessis Pichet. Depuis un an, les Québécois ont eu un coup de foudre pour le Crama Regala. Il est le seul vin moldave vendu à la SAQ et facteur non négligeable, c'est aussi la bouteille la moins chère du réseau à seulement 7$. Le succès a provoqué une petite révolution au domaine Vinaria d'In Valley où la famille Davidescu réalise un rêve. Alors, pour information, la Moldavie se situe entre l'Ukraine et la Roumanie.
Très bien.
Ça vous donne une idée.
Ça situe, merci.
Proche de la mer du Nord, mais elle ne touche pas la mer du Nord. Les vins à moins de 10$ vendus au Québec sont souvent produits par de grandes entreprises, des coopératives ou encore ne contiennent pas d'alcool. Ce n'est guère le cas du Crama Regala. La famille Davidescu, qui produit le vin, possède certes l'un des grands domaines moldaves avec ses 1000 hectares de vignes plantées dans 3 régions viticoles. Tous les fruits sont toutefois vendangés à la main et jusqu'à tout récemment, l'entreprise ne possédait pas l'équipement nécessaire pour embouteiller. À ce jour, la majorité de sa production est vendue en vrac à des distributeurs qui l'embouteillent sous d'autres noms. Le géant Constellation Brands fait partie de ses clients. Pourtant, selon Adrian Davidescu, âgé de 29 ans, qui s'occupe des ventes au domaine familial, le vin a tout pour plaire. On a un terroir magnifique près de la mer Noire. Il ne faut pas croire que le prix de la bouteille indique la qualité du produit. Goûtez mon vin à l'aveugle et comparez-le avec un vin français à 10$, vous serez surpris. Les vins moldaves sont inconnus au Québec, ils sont cependant bien connus en Europe de l'Est. Dans l'ancienne Union soviétique, la Moldavie produisait près de la moitié de tous les vins consommés dans le pays. On y cultive majoritairement des cépages internationaux comme le Cabernet Sauvignon. Le pays valorise également de plus en plus ses variétés autochtones comme le Feteasca Alba ou le Feteasca Neagra, des raisins cultivés en Moldavie depuis plus de 2000 ans. Depuis son entrée au Québec, il s'est vendu près de 2 millions de bouteilles de Crama Regala, le blanc et le rouge. Une surprise pour Adrian Davidescu. On savait que la qualité des produits était excellente pour le prix, dit-il au téléphone, joint quelques jours avant une visite au Québec. On est quand même surpris. Son arrière-grand-père a lancé le vignoble en 1990 en rachetant la petite terre qu'il exploitait à l'époque de l'Union soviétique, donc c'est pas très vieux. Le père d'Andrian Vladimir a agrandi le domaine et il rêvait de produire ses propres cuvées. Grâce entre autres au succès du vin au Québec, ce produit est devenu réalité. Ce projet est devenu réalité. La popularité du Crama Regala chez nous a en effet permis à la famille de se doter d'une chaîne d'embouteillage, un investissement majeur de 1,2 million d'euros et d'augmenter la production de ses propres marques. Deux vins de vignoble Vinaria d'In Valley, qui sont produits avec les meilleures parcelles du vignoble, seront en vente à la SAQ d'ici quelques semaines. On vous prévient, il faudra débourser un peu plus pour goûter ces nouveaux vins à base de pinot noir et de pinot gris, soit un peu moins de 10$ la bouteille.
Parlons poisson rouge à présent,
ah oui.
Sans transition. C'est en France que cela se passe. Du petit bocal au grand bain, l'aquarium de Paris accueille les poissons rouges abandonnés, parfois à regret, par leurs propriétaires pendant l'été, transformant le site aux 10 000 spécimens en refuge aquatique. Il était dans un petit bocal, je pense qu'il sera mieux ici. Alexandre, 32 ans, est venu déposer Nemo, le poisson rouge d'une amie qui allait partir en vacances. C'est mieux que de le jeter dans l'évier, glisse-t-il. Qu'ils ne veuillent plus s'en occuper, déménagent ou souhaitent faire changer d'air à leur animal à nageoire, ils sont une cinquantaine chaque mois à franchir les portes de l'aquarium de Paris, situé au Trocadéro, au cœur de la capitale française, pour venir déposer leurs petits poissons. Certains avec la larme à l'œil, signe du rude choix, longuement soupesé en famille ou entre amis, de se séparer de bubules. Des rouges, mais aussi des jaunes, tigrés ou noirs, cadeaux d'anniversaire ou gagnés dans une kermesse, Depuis que l'établissement a commencé à jouer ce rôle de refuge il y a 2 ans, 600 poissons sont venus grossir les 7500 spécimens qu'abrite l'aquarium, qui héberge également 2500 méduses. Placés en quarantaine pendant plus d'un mois à l'aquarium, les petits Carassius auratus reçoivent par précaution un traitement antibiotique et antiparasite. Certains arrivent faibles. Le transport et le changement de vie, ça augmente le stress, explique Céline Bézot, soigneuse à l'aquarium. Fragile, une petite partie des animaux ne survit pas à son déménagement, malheureusement. Ceux qui surmontent l'épreuve seront transférés dans des bassins où ils sont présentés au public et leur existence va radicalement changer. Nouvel espace pour une nouvelle vie, fini le temps passé à errer dans la vitre du petit bocal. Les poissons rouges, espèces grégaires, peuvent nager en groupe dans de bien plus grands bassins et reprendre leur croissance, stoppée net lorsqu'ils sont confinés dans un bocal. Certains peuvent mesurer jusqu'à 20 ou 30 cm, note Céline Bézot. Derrière cet accueil de petits poissons pointe donc la question du bien-être animal. Je pense qu'il y a une prise de conscience générale que la maltraitance animale est un vrai problème, explique le directeur de l'aquarium. Considérant qu'avoir un poisson d'ornement dans de mauvaises conditions est une forme de mauvais traitement. La législation de certains pays européens interdit d'ailleurs de faire vivre son poisson rouge dans un petit bocal, assure l'équipe de l'aquarium. Pour qu'un poisson vive dans de bonnes conditions, il faut 4 choses. Au moins 100 litres d'eau, qu'il ne soit pas tout seul, un système de filtres et des décors dans l'aquarium, ajoute Morgane Percher, un salarié de l'établissement. Domestiqués depuis des millénaires, notamment en Chine, sélectionnés pour leur beauté au fil des siècles, les poissons rouges devraient connaître à l'aquarium de Paris un meilleur sort que leurs congénères, dont l'existence se termine souvent dans un éclat de chasse d'eau plutôt, ou dans un évier. Et le lien avec leur ancien propriétaire n'est pas forcément rompu. Plusieurs mois après, certains reviennent voir leur animal à l'aquarium, même s'il est difficile de savoir avec certitude où il se trouve parmi les dizaines de pensionnaires. Leur petit bubule est pourtant bien là.
Nous allons parler du château de, vous savez, le fameux beau château en Bavière qui s'appelle le château de Neufschwanstein. Mm-hmm. Je ne sais pas comment le prononcer. Il est en rénovation. Le gouvernement de la Bavière a annoncé l'octroi d'un budget de 20 millions d'euros pour réaliser des rénovations majeures au château de Neufschwanstein. Les intempéries et les nombreux touristes, 1,5 million chaque année quand même, ont en effet endommagé plusieurs parties du château. Le bâtiment spectaculaire compte 93 salles, 664 fenêtres et portes extérieures et des centaines d'œuvres d'art. Malgré les travaux, le château demeure accessible aux touristes. Construit au XIXe siècle par Louis II de Bavière, Walt Disney s'en est inspiré pour concevoir le château de Cendrillon à Disneyland. Présenté comme l'incontournable clou d'un voyage en Bavière, on l'aperçoit de loin, au sommet d'un pic rocheux au pied des Alpes. On s'y rend en calèche, en autobus ou à pied. La marche dure 30 minutes. À partir du stationnement où il faut laisser la voiture. Chaque année, des régiments de touristes s'y pressent. En moyenne, 6000 personnes par jour. Louis II et ses châteaux, le roi Louis II a régné sur la Bavière de 1864 à 1886. Fasciné par l'idée d'une royauté de droit divin, lui qui était un monarque constitutionnel sans pouvoir réel, il a vécu dans le fantasme de recréer la grandeur des rois et des chevaliers du Moyen-Âge. Il a fait construire nombre de châteaux et de palais extravagants, dont le plus célèbre est celui de Neufschwanstein. Oui, peut-être ça se prononce avec un « r » dedans, genre Neufschwanstein, mais... et où il a fini par se replier sur son monde imaginaire et où il n'a vécu que quelques mois.
Une dernière mini brève avant de partir à la pause. Si vous faites un safari, méfiez-vous des lions. Ils pourraient en avoir après votre appareil photo. Et oui, un appareil de plus de 3 000 $ qui appartenait à une touriste a été embarqué par une lionne calmement qui est repartie avec dans la gueule. Elle prenait des photos à bord d'un 4x4 dans une réserve. Lorsque l'équipement est tombé à terre, au revoir l'appareil photo. Et nous prenons donc une courte pause. Revenez avec nous dans quelques minutes pour encore plus d'articles intéressants. A tout de suite.
Vous écoutez les voix de service.
Sur le chemin de terre, ils avaient aligné les corps et les vautours faisaient des cercles autour. Dans la cour de l'école, on bastonnait les dissidents pendant que regardaient en rang les étudiants. Dans les maisons pleuraient les pères et mères, les camions verts transportaient les militaires. Les flamants roses volent dans le ciel encore, et rien n'arrête l'arrivée de l'aurore.
Jean Leloup, les flamants roses.
Le plastique à mauvaise presse. Afin de répondre aux préoccupations environnementales grandissantes des consommateurs, de nombreuses entreprises se tournent vers le marché des biomatériaux et tentent d'adopter des pratiques plus éco-responsables. Un texte de Sarah Laou. Au Centre de technologie minérale de plasturgie CTMP, affilié au Cégep de Thetford Mines, on s'affaire à former les industriels de demain aux matériaux innovants et à les sensibiliser aux questions environnementales. Le directeur de la recherche en plasturgie, Pascal Vuillaume, travaille sur les bioplastiques et les composites, alliant matières végétales et fossiles, qui s'implantent dans des secteurs nichés comme l'automobile, l'agriculture, la médecine ou l'aérospatiale. L'emballage, qui représente 66% des déchets de plastique non recyclés de la planète, est le premier domaine d'application des bioplastiques. Conscient de l'attrait de ces nouveaux biomatériaux en matière de réduction des émissions de CO2, le scientifique reste cependant prudent quant à leur déploiement actuel à grande échelle. La plupart des emballages bioplastiques souillés, comme les barquettes, les assiettes, le film alimentaire ou les couverts, finissent au site d'enfouissement. Or, tous ne sont pas biodégradables, explique le professeur en chimie des polymères. Ces bioplastiques, qui peuvent être biosourcés, c'est-à-dire conçus à partir de matières végétales telles que le blé, le bois, le maïs ou la pomme de terre, amidon, ou biodégradables, pétrochimie ou végétales, sont encore mal identifiés par la population. En outre, la plupart d'entre eux ne sont pas recyclables avec les plastiques traditionnels. Ils se retrouvent au centre de tri et altèrent la remise en œuvre du plastique traditionnel, illustre Pascal Vuillaume. Il s'agirait de développer la filière du compostage industriel et de mieux informer le public pour pouvoir efficacement développer le marché, indique-t-il. Il exhorte d'ailleurs le gouvernement à s'investir davantage et encourage l'industrie du plastique à jouer sur plusieurs fronts. Les travaux du Centre collégial québécois portent aussi sur la conception de matériaux facilement réutilisables dans différentes applications. La filière des polystyrènes, par exemple, est émergente, précise M. Vuillaume, au sujet de ce plastique léger, peu coûteux et dont la fabrique demande peu d'énergie. Ils ne finissent pas à l'enfouissement et les centres de recyclage mettent de plus en plus d'efforts dans cette filière. Au Québec, des entreprises comme Polystiver réussissent notamment à transformer l'intégralité du produit initial de polystyrène en pastilles réutilisables grâce à de nouveaux procédés écologiques. En matière d'emballage, orienter les entreprises au cas par cas reste encore la meilleure des solutions, selon le directeur de l'Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire, ITEGA, Bruno Ponsard. La solution du biodégradable ne doit pas être une option systématique, ajoute-t-il. C'est une démarche éco-responsable globale qui ne touche pas seulement la question des matériaux. Selon lui, il s'agit aussi de se concentrer sur la valorisation des résidus et le déploiement d'une économie circulaire efficace. M. Ponsard rappelle que les qualités de conservation des emballages ne doivent pas non plus être mises de côté car elles assurent la sécurité alimentaire et empêchent le gaspillage des denrées. Pour ce dernier, il ne s'agit ni de suremballer ni de sous-emballer. Celui qui est aussi directeur du Centre d'études des procédés chimiques du Québec, du Collège de Maisonneuve, considère par ailleurs que certaines filières, comme celle du plastique de type polystéréphtalate d'éthylène, PET, utilisé entre autres dans la fabrication de bouteilles en plastique ainsi que le polystyrène, représentent des avenues intéressantes en raison de l'efficacité de leur recyclage. Néanmoins, l'utilisation massive des plastiques d'origine fossile soulève encore de nombreuses questions quant à leur effet à long terme sur la santé humaine. L'expert en emballage veut toutefois se montrer optimiste relativement à l'intérêt grandissant des entreprises pour les pratiques éco-responsables. Ainsi, le directeur de l'ITEGA est convaincu que cette prise de conscience mondiale appuyée par la recherche et l'innovation pourra faire avancer les choses à long terme. Le marché des matériaux renouvelables devrait quant à lui bénéficier d'une croissance exponentielle au cours des prochaines années et offrir de nombreuses occasions d'affaires. En 2025, environ 3% de la production mondiale de plastique sera bio, estime notamment l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Des multinationales imposent d'ores et déjà des normes écologiques et des matériaux biosourcés aux industriels comme IKEA ou Danone. Des organismes spécialisés en biotechnologie ou en chimie verte offrent également d'accompagner de partager les risques financiers de cette transition à la source avec les industriels du plastique, comme le nouveau consortium de recherche et d'innovation en bioprocédés industriels du Québec. Si un emballage coûte plus cher aux consommateurs et à l'entreprise, mais qu'au final il revient moins cher à la société car il est réutilisable ou biodégradable, c'est un pari gagné, conclut Bruno Ponsard. Les réglementations environnementales tendent à suivre cette logique et se durcissent un peu partout dans le monde. Une soixantaine de pays ont déjà réglementé l'utilisation des plastiques à usage unique et plusieurs cherchent des solutions pour améliorer la conception et la production durable à grande échelle, à l'instar du Canada.
Le zoo sauvage de Saint-Félicien fait peau neuve. C'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Stéphanie Morin signe cet article. Grosse année pour le zoo sauvage de Saint-Félicien. L'établissement du Saguenay-Lac-Saint-Jean a investi 10 millions pour améliorer ses installations, notamment le très fréquenté habitat des ours blancs. Le nouvel habitat est 10 fois plus grand que l'ancien, avec une superficie de 6 300 m². Pardon. Explique Christine Gagnon, directrice à l'éducation et à la conservation au zoo de Saint-Félicien. L'ancien habitat datait de 1995 et ne correspondait plus à nos standards. Nos trois ours étaient à l'étroit et nous ne pouvions pas isoler un animal si nécessaire, ce qui sera désormais possible. Le nouvel habitat est aussi plus diversifié et plus stimulant pour les ours qui peuvent profiter de plusieurs substrats, de la terre, du sable, de la roche, de l'herbe. Il y a des pentes, du plat, des buttes, le bassin d'eau est aussi plus grand et il y a une chute qui tombe dans un petit étang. Pour l'instant, le mâle et les deux femelles ont accès à une seule des deux sections de l'habitat. La seconde partie sera terminée à l'automne. Dès que les ours y auront accès, ils cohabiteront avec des renards arctiques qui pourront profiter de plusieurs cachettes aménagées pour eux afin de ne pas finir en goûter improvisé pour leurs voisins prédateurs. Le zoo sauvage a aussi fait l'acquisition d'une toute nouvelle espèce de primates, des géladas, qui ont pris la place des ours blancs dans leur ancien habitat, réaménagé pour eux. C'est la première fois qu'ils sont présentés au Canada, ce sont des animaux très intrigants. C'est la seule espèce de primate qui est herbivore. Ils possèdent aussi tout un système de communication qui passe par leurs lèvres supérieures et leurs sourcils, dit Madame Gagnon. À l'heure actuelle, 4 individus mâles peuvent être observés, 2 autres les rejoindront sous peu. L'arrivée à Saint-Félicien de ces primates adeptes de grimaces peut étonner quand on sait que les géladas vivent dans les montagnes d'Éthiopie. Le zoo n'avait-il pas comme mission de se concentrer sur la Boréalie, soit la zone la plus nordique de la planète? Nous avons décidé d'élargir notre créneau et d'inclure les régions froides du globe. Or, les géladas vivent en altitude dans les monts Simiens où il neige en hiver. C'est Christine Gagnon, directrice à l'éducation et à la conservation au zoo de Saint-Félicien. L'autre grande nouveauté animale importante concerne le retour des caribous dans le parc des Sentiers de la Nature. On se souviendra qu'en 2015, la harde avait été décimée par une toxine. En 2017, le zoo a reçu de Colombie-Britannique 11 nouveaux individus qui ont passé l'année loin des yeux du public. Depuis le début de l'été, on peut les apercevoir lors de la balade en train sur les sentiers de la nature ou en s'inscrivant au forfait aventure au pays des caribous. Les caribous vont bien, leurs bois sont en croissance actuellement et ils sont impressionnants, explique Christine Gagnon.
Et autre parc d'attractions, autres animaux un peu plus petits, nous allons en France, des corbeaux pour nettoyer un parc d'attractions. Ah, mégots au bec et sous le regard amusé des visiteurs du parc de loisirs du Puy du Fou, dans l'ouest de la France, un corbeau dépose dans une boîte un déchet ramassé au sol. Son acte citoyen sera récompensé d'une croquette. Depuis lundi, 6 corbeaux spécialement dressés pour le ramassage des mégots et des déchets participent au nettoyage du deuxième parc à thème de France, une action qui révèle aussi l'incivilité des visiteurs. Sur le stationnement, il y a des détritus et les corbeaux sont en train de les ramasser, Ce n'est pas normal, c'est à nous humains de faire attention. C'est le message final, explique Christophe Gabory, spécialiste de l'affêtage, c'est-à-dire le dressage, des rapaces du Puy du Fou. L'espèce sélectionnée, le corbeau freux, est un oiseau particulièrement intelligent, qui, lorsqu'il est dans une atmosphère affective, porteuse, aime communiquer avec l'homme et établir une relation avec lui par le jeu, précise Nicolas Devilliers, président du parc aux plus de 2 millions de visiteurs par an. Le dresseur a donc inventé une petite boîte, et lorsque le corbeau dépose un mégot dans la boîte, un mécanisme se déclenche et une croquette lui est délivrée. Motivés par la récompense, les corbeaux ont vite compris comment fonctionnait le jeu, se réjouit M. Devilliers. Pour Dorothée Effliger, touriste suisse, c'est écologique et ça fait une animation rigolote. Cette prouesse redore l'image du corbeau. Je l'ai toujours aimé parce que c'est un oiseau qui n'est pas apprécié. On a réussi à changer son image, c'est super intéressant, explique M. Gabory. M. Devilliers voit une sorte de fable de La Fontaine revisitée. L'animal, la nature, donne une belle leçon aux hommes.
Parlons donc d'un Québécois qui nous inspire, c'est Guillaume Provost, qui a ouvert Compulsion Games à Montréal en 2009 après avoir travaillé à Toronto, en France et à Taïwan. C'est un créateur de jeux vidéo. En quittant Montréal à la fin des années 90, Guillaume Provost croyait que la ville ne produirait jamais de jeux vidéo. 20 ans plus tard, Compulsion Games, le studio montréalais qui l'a fondé en 2009, vient d'être acquis par Microsoft. Nous avons rencontré le concepteur à l'aube du lancement de We Happy Few, son jeu dystopique très attendu du public mondial. Un texte de Carl-Philippe Vallée. Guillaume Provost dort très peu depuis quelques temps. Dans une ancienne usine de gramophone de Saint-Henri, le chef d'orchestre et ses 38 employés composent une symphonie au clavier, d'ordinateur. Dans quelques jours, ils présenteront au monde entier leur opus, le jeu We Happy Few. Il y a 20 ans, Guillaume Provost n'aurait même pas osé imaginer cette scène dans ses rêves les plus fous. Quand il a commencé sa carrière en 1994, Montréal était invisible dans le paysage vidéoludique mondial. Convaincu qu'il n'y avait aucun avenir pour lui dans la métropole québécoise, le concepteur de jeux vidéo s'est exilé à Dolbeau, où il a travaillé pour une jeune pousse avant de faire ses valises pour Toronto puis pour la France. Ce passage dans l'Hexagone, où il a travaillé pour Arkane Studios, donc ceux qui ont produit Dishonored ou Prey, avec une équipe à fort potentiel créatif et artistique, a grandement contrasté avec ses expériences précédentes où l'accent était mis sur l'aspect technique. Je pense que ce que ça m'a donné, c'est la modestie de comprendre qu'il n'y a pas qu'une manière de faire des jeux, estime-t-il. C'est d'ailleurs pendant qu'il était en France qu'il a reçu une offre de la part d'investisseurs de Taïwan pour ouvrir son propre studio à Montréal. Taïwan était entre-temps devenu ce qu'il appelle l'Hollywood des jeux vidéo. Après un aller-retour à Taïwan, il est revenu en France avec un contrat de plusieurs millions de dollars en poche et s'est préparé à rentrer au Canada. Ma femme de l'époque et moi avions tout préparé pour déménager. On a dit à notre propriétaire qu'on s'en allait et ma femme avait quitté son emploi, se souvient-il. La crise financière de 2008 venait de frapper l'économie mondiale de plein fouet et ses effets se faisaient sentir jusque dans l'industrie du jeu vidéo. On a pris une décision courageuse et on a décidé de déménager à Montréal pour démarrer un studio, mais sans argent. Serait mort-il. J'avais deux jeunes enfants à l'époque. Arrivé à Montréal, acheter une maison, trouver un premier contrat pour pouvoir payer les factures, sur le coup, ça a été pas mal de stress. Les idées de grandeur que lui avaient brièvement fait miroiter les investisseurs de Taïwan ont été remplacées par Compulsion Games, un studio dont il était alors le seul travailleur et qui faisait de la prestation pour d'autres entreprises par manque d'argent. La création du Fonds des médias du Canada en 2010 lui a permis d'obtenir assez de financement pour réaliser son propre projet, qui allait devenir Contrast. À la sortie du jeu en 2013, l'équipe de Compulsion Games comptait désormais 7 employés. C'est cette petite équipe qui a commencé le travail qui s'achève aujourd'hui sur We Happy Few. En lançant ce jeu, Guillaume Provost tourne une page importante de sa carrière puisque son studio vient d'être acquis par Microsoft. Compulsion Games produira donc des jeux exclusifs à Xbox et à Windows, en profitant au passage de l'expertise et du budget du géant de Redmond. Pour Guillaume Provost, c'est un retour du balancier inespéré après son rendez-vous manqué de 2008. En regardant l'industrie, je n'étais pas dans un esprit qui me poussait vers la vente de l'entreprise du tout. Ce n'était pas un but pour moi, mais l'occasion s'est présentée. Si on avait l'objectif de devenir un flambeau pour l'une des consoles, c'était un peu l'occasion à ne pas rater dans l'histoire de la compagnie. Moi, ça m'excite. Monsieur Provost se fait rassurant quand on l'interroge sur le futur de l'entreprise. Il n'a pas l'intention de changer ses habitudes, acquises pendant 20 ans de travail acharné du côté des indépendants. Je pense que c'est ça qui est excitant pour Microsoft aussi, en réalité. Ils voulaient des équipes qui sont créatives et indépendantes, justement pour aider à élargir le portfolio de leurs jeux qu'ils peuvent offrir à leur audience. Le tintamarre au 1001 rue Lenoir s'étouffera sous peu. Le chef d'orchestre Guillaume Provost et ses 38 virtuoses s'apprêtent à livrer leur composition, We Happy Few. Il y a beaucoup de préparation qui va dans la création des univers qu'on fait, explique-t-il. Pour qu'on obtienne un monde et une histoire cohérents, il faut qu'on inclue des thématiques qui sont universelles et contemporaines. Dans sa dernière œuvre, le joueur incarne un personnage qui tente de s'échapper de Wellington Wells, une ville britannique fictive dans laquelle les habitants sont forcés de consommer une drogue appelée Joy, joie en français. Sous l'influence de celle-ci, les habitants oublient leurs mauvais souvenirs, nombreux depuis l'occupation allemande de leur pays pendant la Seconde Guerre mondiale, une quinzaine d'années plus tôt. Sans en avoir fait un jeu politique, Guillaume Provost admet que We Happy Few porte certains messages sur la société actuelle. Le jeu teste le sens moral du joueur qui est confronté à des décisions difficiles. Il est en effet parfois nécessaire de se droguer, de voler ou même de tuer pour parvenir à s'enfuir sans s'éveiller les soupçons. Monsieur Provost compare son travail à celui des réalisateurs de cinéma d'auteur, car il lui permet de refléter et de commenter la société dans laquelle il vit. Dans le cas de We Happy Few, son équipe et lui ont voulu parler de la culture et des médicaments d'ordonnance et de la censure en s'inspirant notamment du « meilleur des deux mondes » d'Aldous Huxley. Quand il regarde le chemin qu'il a parcouru en 20 ans de carrière et qu'il constate l'évolution de l'industrie des jeux vidéo, Guillaume Provost se dit résolument optimiste pour l'avenir. Quand j'ai commencé dans l'industrie pour pouvoir vendre un exemplaire d'un jeu, il fallait que tu aies une équipe de 60 personnes qui était capable de faire un jeu assez gros pour qu'un éditeur le prenne, qu'il imprime des CD, qu'il les mette dans des camions et les jeux se rendent dans des magasins. C'était ça le plancher pour pouvoir faire des jeux. La plus grande différence dans l'industrie d'aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un écosystème où tu peux être seul dans ton garage ou être une équipe de 100 personnes et avoir du succès. Ça me rend optimiste pour le futur parce que c'est une industrie qui accommode aujourd'hui des entreprises et des projets de toute taille.
Et de 24, je parle de parcs nationaux Québec. Violaine Bellivising, cet article. La création de parcs nationaux, provinciaux ou fédéraux est un événement qui se fait plus rare depuis quelques années, mais qui n'est pas impensable pour autant. La CEPAC a inauguré à la fin du mois de juin le parc national de l'Opémican dans la région de Témiscamingue, ajoutant un 24e parc au réseau provincial. C'est l'aboutissement d'un long processus. L'idée de créer ce parc est venue de la population locale à la fin des années 70. Elle a demandé que le secteur soit protégé, explique Danny Garraud, directeur du parc. Dès 1983, Québec a désigné patrimoine officiel une portion du territoire, reconnaissant la valeur historique de cet ancien camp de draveurs et chantier naval. Puis, au début des années 2000, la direction des parcs nationaux a décidé d'évaluer le potentiel de quelque 270 km², dont 252 allaient être retenus pour la création du parc d'Opémican. Il y a eu une période un peu houleuse à ce moment-là, note Danny Garraud. Une petite partie de la population ne voulait pas perdre le droit de circuler en VTT, ni se priver d'un territoire de chasse. Une quarantaine de chalets et des camps de chasse figuraient sur le territoire visé. Personne n'a été obligé de vendre, assure Danny Garraud. Les propriétaires de 6 chalets et 3 camps de chasse enclavés dans le parc ont d'ailleurs préféré garder leur titre et conserve un droit de passage pour s'y rendre. Le parc d'Opémican est divisé en 3 secteurs, dont un seul est ouvert cet été. celui de la rivière Kipawa, qui devrait surtout plaire aux amateurs de canoë et de camping sauvage. Longue de 16 km, la rivière Kipawa présente un dénivelé total de 90 mètres, avec des rapides allant jusqu'à la classe 5, qui peuvent être évités en portage. Les autres secteurs sont ceux qui abritent les 9 sites archéologiques reconnus, témoins importants de l'histoire du Témiscamingue, de la Drave, qui employait plusieurs milliers d'hommes, ou de la présence autochtone. 4 bâtiments patrimoniaux pourront être visités. 10 des 26 millions de l'enveloppe budgétaire du parc seront consacrés au patrimoine historique. Fait rare, sinon unique, la direction du parc a lancé un programme d'embauche de stagiaires avec les Premières Nations de la région. 8 d'entre eux apprendront pendant 35 semaines le métier de garde-parc. Nous avons un budget de 1 million pour des partenariats avec la communauté autochtone, selon Danny Garreau. Le parc visera aussi à permettre la préservation d'une quinzaine d'espèces à statut précaire, dont l'esturgeon jaune et le faucon pèlerin.
Partons dans les airs à présent. Une catastrophe a été évitée de peu le mois dernier. Je n'ai pas eu le temps de le lire la semaine dernière, mais voici. L'avion d'Iraqi Airways a décollé sans encombre de Mashhad en Iran, mais ses 150 passagers ont bien failli ne jamais arriver à Bagdad à cause d'une dispute entre pilote et copilote, en plus apparemment à cause d'un plateau repas. Médias et réseaux sociaux irakiens se sont immédiatement saisis de l'affaire avec horreur ou ironie, poussant la compagnie nationale à se fendre d'un communiqué d'explication. Ce sont des pilotes ou des chauffeurs de minibus, faisait mine de s'interroger une internaute en référence à ces conducteurs connus pour rouler à toute allure et qui sont le cauchemar des autres automobilistes. Le ministère des Transports a ouvert une enquête avec les deux pilotes qui se sont disputés en vol, a indiqué Iraqi Airways, dans un communiqué qui ne précise pas quand l'incident a eu lieu. La compagnie ne donne pas non plus la raison de la discorde sur ce vol, qui avait tout de même 157 passagers à bord, mais dans une lettre adressée à sa hiérarchie et consultée par l'AFP, le copilote affirme que, alors que l'avion était en vol, le ton est monté avec le pilote parce qu'il refusait qu'une hôtesse m'amène un plateau repas, sous prétexte que je ne lui en avais pas demandé l'autorisation. Après avoir pris son propre repas, poursuit-il, le pilote a utilisé un vocabulaire inapproprié, puis l'a frappé et insulté, ce qui a provoqué la venue d'un membre de la sécurité. Les deux hommes ont cependant réussi à faire atterrir l'avion, mais une fois l'appareil posé à Bagdad, eh bien, le pilote a de nouveau porté coups et insultes. Face à cela, plaide-t-il, j'ai dû me défendre. Iraqi Airlines indique avoir suspendu les deux hommes et promet qu'ils ne pourront échapper aux sanctions les plus dures, comme l'interdiction de voler à vie.
Réouverture du joyau du Sichuan. L'un des plus célèbres parcs nationaux de Chine a accueilli la semaine dernière ses premiers visiteurs après 7 mois de fermeture. Frappé par un tremblement de terre en août dernier, l'année dernière, le parc dans la province de Sichuan est ouvert partiellement aux voyageurs inscrits à des visites guidées. Les voyages individuels sont interdits pour l'instant. Le nombre de visiteurs sera de plus limité à 2000 par jour. Avant la catastrophe, le nombre de visiteurs quotidiens se chiffrait à 20 000.
Très bien. Et si vous voulez y aller, eh bien, n'y allez pas avec Iraqi Airlines, apparemment. Non. Ce qui conclut cette émission. Merci à vous, mes chers camarades, Jean-Charles Alliant.
Merci, Louis.
Et Yves-Olivier. Merci également à Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée et bonne semaine à tous.
Bientôt.